Et c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La France demande à l'OTAN de hausser le ton face à la Turquie après l'incident militaire franco-turc. En attendant, Paris se retire d'une opération navale de l'Alliance Atlantique. Les explications de Nathalie Hernandez dans un instant. À Hong Kong, des milliers de manifestants défient le régime chinois après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sécuritaire. Résultat, plus de 180 arrestations, mais la répression n'a pas réussi à faire taire les partisans de la démocratie. Le reportage de notre correspondante Florence de Changy. En France, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine s'explique devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur la crise sanitaire. Elle a tenté de justifier sa gestion controversée du stock de masques disponibles sous François Hollande. L'écho d'après, dernier rendez-vous ce soir pour notre chronique consacrée aux défis économiques de l'après-crise. Aujourd'hui, la robotisation de l'agriculture avec Marie Viello. Jusqu'où iront les tensions grandissantes entre la France et la Turquie? Nouvel épisode aujourd'hui. Paris annonce son retrait temporaire d'une opération navale de l'OTAN en Méditerranée. Le 10 juin dernier, au large de la Libye, un incident avait opposé une frégate française à un bateau turc. La France attend de l'Alliance Atlantique qu'elle condamne fermement l'attitude d'Ankara. Les deux pays sont membres de l'OTAN. Mais pour le moment, Nathalie Hernandez, l'Alliance n'a pas vraiment répondu à la demande du gouvernement français.
Pour Paris, l'OTAN ne prend pas suffisamment position, n'apporte qu'un soutien du bout des lèvres et son enquête sur l'incident naval n'apparaît pas satisfaisante. Selon l'ambassadeur turc en France, entendu aujourd'hui par les sénateurs, les investigations otaniennes n'iraient pas dans le sens du ministère français des armées. Le diplomate assurant que son pays n'a jamais cherché à menacer la frégate Courbet et que l'OTAN disparaîtrait sans la Turquie et son appui militaire. Si la Turquie ne peut pas quitter l'OTAN, l'Alliance doit, elle, impérativement clarifier les choses pour Paris. En particulier, réaffirmer solennellement son attachement au respect de l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye. Ensuite, édicter des règles claires de comportement des navires engagés dans l'opération Sea Guardian pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Qu'enfin, il y ait une coopération digne de ce nom avec l'Union européenne dans le cadre de la mission Irini qui doit justement faire respecter l'embargo sur les armes en Libye. Paris n'a donc pas décidé de jouer l'apaisement avec Ankara sur l'intervention turque en Libye et ce quelques jours après les mots tranchants du président français, Emmanuel Macron avait parlé de responsabilité historique et criminelle de la part de la Turquie.
Nathalie Hernandez, merci. Toujours au chapitre de la Turquie, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, exhorte Ankara à ne pas convertir en mosquée l'ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, un projet caressé par le président turc Erdogan. Sainte-Sophie est un musée depuis 1923 et la naissance de la République de Turquie. L'Empire ottoman en avait fait une mosquée en 1453 à la chute de Constantinople. Le président Erdogan veut aujourd'hui lui redonner sa vocation religieuse. Mais pour Mike Pompeo, il est important que le régime d'Ankara respecte les traditions qui ont façonné la République de Turquie. La Chine a donc mis ses menaces à exécution. La loi sécuritaire destinée à renforcer l'emprise de Pékin sur Hong Kong est entrée en application aujourd'hui et d'une manière extrêmement brutale. Au moins 180 personnes ont été arrêtées parmi les milliers de manifestants qui avaient bravé l'interdiction de défiler. Les partisans de la démocratie entendaient marquer le 23e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. Le reportage à Hong Kong de Florence de Changy.
Pékin et le gouvernement de Hong Kong ont perdu leur pari. Ils avaient misé sur la nouvelle loi draconienne de sécurité nationale pour ramener le calme et la sérénité à Hong Kong, comme le promettaient aussi les nombreuses affiches qui avaient recouvert les murs de la ville depuis un mois. En fait, cette première journée sous la loi de sécurité nationale, entrée en vigueur le 30 juin à 11h du soir, a été tout aussi chaotique que des dizaines d'autres depuis un an. Il y eut plusieurs rassemblements non autorisés mais calmes, et aussi plusieurs clashs violents avec la police, avec notamment des pavés déterrés des trottoirs. L'un des principaux axes de l'île de Hong Kong, Hennessy Road, a été bloqué pendant quelques heures. Un policier a été grièvement blessé par un coup de couteau dans le haut du bras et la police s'est empressée de mettre en ligne les images sanglantes de cette blessure pour dénoncer la violence des manifestants. De son côté, l'association des journalistes de Hong Kong a dénoncé l'agressivité des policiers à l'égard des journalistes présents pour couvrir les événements. Mais au soir de cette première journée, le message des Hongkongais à Pékin est clair. La méthode chinoise, aussi intimidante qu'elle soit, ne les fera pas taire.
Florence de Changy, notre correspondante à Hong Kong. Les États-Unis déplorent un triste jour pour Hong Kong et pour tous les amoureux de la liberté en Chine. Washington qui menace à nouveau Pékin de représailles politiques et économiques. Après Agnès Buzyn hier, la commission d'enquête de l'Assemblée sur la crise sanitaire auditionne aujourd'hui son prédécesseur au ministère de la Santé, Marisol Touraine. Elle a occupé le poste pendant tout le quinquennat de François Hollande de 2012 à 2017 et sa gestion du stock de masques alors disponible en France est très controversée. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi l'audition de Marisol Touraine.
Marisol Touraine très à l'aise, elle égrène très vite des chiffres précis. Quand elle arrive au ministère en 2012, il y a 730 millions de masques chirurgicaux. Quand elle le quitte, en 2017, il y en a 754 millions. Les députés l'interrogent alors sur un changement de stratégie lors de sa prise de fonction. Moins de masques auraient été achetés qu'à la période précédente. Elle se défend.
La doctrine de 2011, elle ne parle pas d'un milliard de masques. Mais j'ai toujours considéré que nous devions aller le plus haut possible vers un milliard. Je vous dis pas que je me levais tous les matins en disant un milliard, un milliard, un milliard. Non. Mais je n'ai jamais considéré que nous devions réduire le nombre de masques.
Autre sujet, les masques FFP2. Pourquoi n'y en a-t-il plus lorsqu'elle quitte le ministère? Lui demande le rapporteur de la commission, Éric Ciotti. Marisol Touraine répète devant la commission l'analyse faite à l'époque par la Direction générale de la Santé.
Nous n'avons pas besoin de maintenir des masques FFP2 dans les stocks stratégiques puisque ces masques sont réservés à des actes, pas simplement à des professionnels, mais à des actes extrêmement limités et donc nous n'en avons pas besoin.
La ministre se défend aussi d'avoir abandonné la gestion des stocks de masques aux hôpitaux en 2013. Ces stocks étaient contrôlés tous les 3 mois, assure-t-elle. Quand on est ministre, ajoute-t-elle pour finir, on ne contrôle pas le nombre d'ampoules, mais on sait qui fait quoi.
Wafia Kenich, merci. Après Marisol Touraine, les députés de la commission d'enquête doivent procéder à l'audition de Roselyne Bachelot, qui fut ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010. Le Conseil d'État a validé aujourd'hui la hausse des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. La plus haute juridiction administrative a rejeté le recours de plusieurs associations, dont l'UNEF, le deuxième syndicat dans les universités. Cette hausse avait été décidée en novembre 2018. Elle concerne d'abord les étudiants extérieurs à l'Union européenne. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Le Conseil d'État rappelle que les étudiants étrangers peuvent déjà bénéficier de certaines aides financières.
Oui, alors même si les étudiants étrangers hors Union européenne ne paieront que 30% du coût réel de leur formation, reste que la facture restera importante, puisque par exemple, pour une licence, il faudra payer 2770 euros par an et 3770 euros pour un master. Une décision que dénonce Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF à l'origine de cette procédure.
La Cour des comptes précise que la formation pour un étudiant serait de 10 000 euros. Et donc, à partir de ce chiffre-là, part du principe que 30% de 10 000 euros, ce qui est donc le montant des frais d'inscription des étudiants étrangers, ce n'est pas si cher que ça. Mais en plus de ça, en réalité, quand on regarde le coût de la formation en licence de sciences humaines, eh ben c'est moins de 2770 euros.
De son côté, la CPU, la conférence des présidents d'université, salue la décision du Conseil d'État en expliquant que ce n'est pas à la France de payer la formation des futurs cadres étrangers. Mohamed Amara, en charge des relations internationales à la CPU, est président de l'université de Pau.
Pour l'usager extra-communautaire, est-ce que c'est aux citoyens français de payer complètement ou peut-on demander une contribution de la part des étudiants extra-communautaires? Est-il naturel que nous formions les cadres de la Chine sans leur faisant payer des droits très minimes alors qu'ils n'ont pas vocation à travailler ici. Donc c'est un vrai sujet.
En attendant, le risque est de voir une partie de certains étudiants étrangers, notamment du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, de choisir d'autres pays pour étudier, ce qui serait mauvais d'un point de vue diplomatique et diplomatie loose, comme l'on dit au Quai d'Orsay. Sachez qu'aujourd'hui, une très grande partie des universités françaises ne faisait pas payer ses frais d'inscription aux étudiants étrangers. Reste qu'aujourd'hui, eh bien, avec ces décisions, il risque d'avoir de très nombreuses sanctions de la part du ministère de l'enseignement supérieur s'il n'applique pas la règle.
Hakim Kasmi, merci. Éric Zemmour est de retour au tribunal. Le polémiste comparé en correctionnel cet après-midi pour injures et provocations à la haine raciale. La justice lui reproche des propos virulents tenus le 28 septembre dernier lors d'un événement baptisé Convention de la droite à Paris. Ce jour-là, Éric Zemmour avait fustigé, je cite, les immigrés colonisateurs et l'islamisation de la rue en France. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maretz.
Le public est nombreux dans la salle d'audience. Les journalistes, en revanche, semblent bouder cette énième audience de la 17e chambre impliquant Éric Zemmour. Éric Zemmour, justement, a décidé de ne pas venir. Il n'est pas juriste et c'est un débat juridique, précise son avocat. Et il ajoute, pour justifier cette absence, « Mon client est de plus en plus victime d'agressions ». La star de la provocation absente, la tension retombe, le débat reste aux considérations purement juridiques autour de la liberté d'expression. La totalité de la vidéo est visionnée, une trentaine de minutes diffusées sur la chaîne d'information, sans commentaire, sans modérateur. Face à un public fasciné, au premier rang duquel figurent Marion Maréchal Le Pen et le philosophe Raphaël Enthoven, Éric Zemmour se lâche dans un quasi one-man show. Il ironise sur les tenues de Sibeth Ndiaye, l'art contemporain et les, je cite, « LGBTQI et autres XYZ ». Il rosse les juges, je cite, « conditionnés par la propagande de gauche », les féministes, les francs-maçons, mais sa cible préférée reste l'immigré musulman qui s'en prend selon lui à, je cite, « l'homme blanc hétérosexuel catholique parce qu'il est faible ». La séance de visionnage est terminée. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, demande à prendre la parole. Il estime que les propos d'Éric Zemmour, qu'il qualifie de dieudonné des chaînes d'info, appellent à un passage à l'acte.
Antoine Maret et le jugement devrait être mis en délibéré. Comme chaque mercredi dans le journal de 18h, place à l'écho d'après, notre rendez-vous consacré aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Une crise qui a mis en lumière la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture, d'autant plus que la fermeture des frontières a empêché l'embauche de travailleurs migrants. Aujourd'hui, on peut à nouveau circuler au sein de l'UE et les saisonniers étrangers commencent à revenir dans les champs. Mais cette crise pourrait accélérer une mutation déjà largement amorcée, la robotisation de la cueillette des fruits et légumes. Un dossier préparé ce soir par Marie Viennot.
Identifier une framboise mûre, s'en rapprocher très lentement, la saisir de ses deux bras d'acier, délicatement la déposer, le robot qui sait le faire existe déjà. Il est surnommé Robocrop, crop comme récolté, et a été présenté en Angleterre il y a un an. Si ce robot est né outre-Manche, c'est parce qu'après le vote du Brexit, les agriculteurs britanniques ont eu du mal à recruter de la main-d'œuvre étrangère et que le gouvernement a débloqué 130 millions de livres pour la recherche agricole et l'aide à la transformation des exploitations. Les mêmes causes produiront les mêmes effets après la Covid-19, prévoit une note d'étude publiée par le CEPI, le Centre d'études et de prospectives, Lionel Rago, l'un des auteurs.
Ça a été le manque de bras suite aux deux guerres mondiales du XXe siècle, qui a permis de développer la mécanisation, je pense aux céréales, où on est passé à la moissonneuse-batteuse. Là, c'est peut-être ce manque de bras de saisonniers qui va développer l'équivalent.
En France, 34% des emplois dans l'agriculture sont des emplois saisonniers, et dans ces 34%, un quart vient de l'étranger. Les données sont difficiles à trouver, reconnaît le chercheur, mais cela représenterait 200 000 personnes par an. La pénurie qu'a provoqué le confinement n'est pas conjoncturelle, elle pourrait se reproduire, estime ce chercheur qui met en avant les retombées politiques de cet événement.
Toute crise économique entraîne généralement un retournement des opinions publiques en défaveur de l'immigration. D'autant plus quand elle est consécutive à une pandémie comme celle-là où le virus circule avec les personnes. C'est pour ça que nous on pense que elle va pas être purement conjoncturelle, cette crise de la main-d'œuvre. Et que du coup, les agriculteurs, pour eux, ils peuvent pas se permettre d'avoir une saison et encore moins deux saisons où ils peuvent pas faire leur récolte normalement. Et on voit bien que la technologie, elle est mature et que c'est une question de quelques années pour qu'elle soit aussi rentable économiquement.
Pour les économistes du CEPI, les robots cueilleurs seront installés dans le paysage agricole d'ici 5-10 ans. Une vision d'horreur pour la Confédération paysanne, son porte-parole Nicolas Giraud.
Ce choix-là, il va encore couper un peu plus le monde paysan de la demande sociétale, qui voudrait se reconnecter au contraire à la nature, se reconnecter au vivant. C'est pas des robots qui vont arriver à nous donner les clés pour mieux répondre au dérèglement climatique qui nous arrive. Toute cette mécanisation-là utilise des ressources qu'on sait ne pas être infinies.
À l'inverse, la FNSEA considère que la robotisation pourrait rendre les métiers agricoles plus attractifs parce que moins pénibles. Michaël Jacquemin.
Les robots vont arriver sur nos exploitations agricoles, ce qui va peut-être nous permettre d'être moins dépendant de la main-d'œuvre étrangère, mais on aura toujours besoin de main-d'œuvre, alors peut-être un tout petit peu plus qualifié qu'aujourd'hui, avec des métiers encore plus attractifs.
L'application Des bras pour mon assiette aura permis de recevoir 300 000 candidatures pendant le confinement, mais au final, moins de 15 000 contrats ont été signés, selon le ministère de l'Agriculture et la FNSEA. Pour les récoltes de l'automne, les travailleurs migrants sont donc toujours aussi nécessaires. Et ce qui inquiète dorénavant les agriculteurs, c'est le coût des protocoles sanitaires.
Marie Viennot, merci. C'était notre dernier rendez-vous de la saison avec l'écho d'après, des chroniques à retrouver dès à présent sur franceculture.fr. Un mot du temps demain, variable et souvent orageux sur la majeure partie du pays. 9 départements principalement en Rhône-Alpes sont en vigilance orange pour un fort risque de grêle. En revanche, le soleil dominera du côté de la Méditerranée, les températures minimales de 9 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 17 et 27 degrés.